I am your voice.
Nous sommes deux vieilles nations dans le monde.
Le Royaume-Uni et la France.
لن يتحقق لكم سلام بالعدوان وإن هذه الدماء
بالروح بالدم
تكون لعنة عليكم
نبديك يا أقصى
إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها
بيوتكم في انتظاركم مساجدكم في انتظاركم كنائسكم في انتظاركم وهم لكم ولأولادكم.
Vous écoutez L'Histoire en Marche, un programme réalisé par Jalil Lakhdar, coordonné par Sami Hahel et Marim Abdou pour vous accompagner au micro. L'Italie dénonce fermement les attaques contre les casques bleus de la FINUL au Liban, dont plusieurs ont visé des contingents italiens. Ces attaques sont qualifiées d'inacceptables par le ministre italien des Affaires étrangères. En mars dernier, Rome a accordé 10 millions d'euros supplémentaires d'aide humanitaire pour les déplacés libanais, incluant médicaments et denrées via des vols ou un vol de 30 tonnes. Le 15 avril dernier, Giorgia Meloni a suspendu l'accord de défense avec l'entité tout en appelant à un cessez-le-feu durable entre le Liban et ce qui est qualifié d'Israël. Avec nous en ligne à partir de Rome, Monsieur Riccardo Cessa. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes président de la Société italienne pour l'Organisation internationale. Monsieur Riccardo Cessa, je le disais à l'instant, le gouvernement italien décide de suspendre l'accord militaire de coopération avec l'entité sioniste. Qu'est-ce que cela pourrait impliquer pour l'Italie en l'occurrence ?
En effet, le gouvernement italien a communiqué par lettre du premier ministre italien, Madame Meloni, à son homologue israélien, la décision de suspendre le renouvellement automatique de cet accord. Ce n'est pas l'accord qui a été suspendu ou annulé, mais son renouvellement automatique. Vous direz, mais qu'est-ce que cela signifie? Cet accord, qui est un accord qui est entré en vigueur en 2016, représente le cadre juridique pour une coopération entre l'Italie et Israël dans le domaine de la défense, en incluant un échange de matériaux militaires et une collaboration technologique entre les forces armées italiennes et israéliennes. C'est un accord qui se renouvelle tacitement chaque 5 années, sauf décision d'une des deux parties de suspendre, de bloquer ou même d'annuler l'accord. Dans ce cas, le gouvernement italien a seulement décidé de renvoyer finalement le renouvellement de l'accord.
Décider de renvoyer le renouvellement de l'accord, c'est mettre un peu les compteurs à zéro, car si l'accord est suspendu, ça voudrait dire que si l'une des deux parties ne décide pas de relancer l'accord, cela signifie automatiquement son annulation, je veux dire.
Sur le plan diplomatique, ce n'est pas exactement cela. Cela est vrai dans la mesure que, d'après ce que j'ai vu dans la presse, parce que naturellement, je n'ai pas tous les détails de cet accord et surtout des réactions du côté israélien, hein. Mais la première impression a été assez légère, je dirais, du côté israélien.
Qu'est-ce que vous voulez dire par assez légère?
Bah écoutez, ils ont déclaré que finalement cet accord ne va pas mettre en danger la sécurité d'Israël. Et moi, je peux ajouter que finalement, ce n'est pas un véritable accord militaire dans le sens strict du terme. C'est un accord qui permet des échanges de coopération dans le domaine de la défense.
C'est ça. C'est ça. Minimiser cet accord, c'est vouloir indiquer que cette décision hautement politique, hein, disons-le ainsi, Monsieur Ricardo, n'aura pas d'impact sur ce qui est qualifié aujourd'hui d'Israël. Monsieur Ricardo, c'est ça.
Écoutez, cela, bah, moi, je ne peux pas oublier que je suis un ambassadeur. Donc
je comprends.
C'est un signal aux autorités israéliennes. Et d'ailleurs, notre premier ministre, notre ministre des Affaires étrangères ont déjà, dans certaines situations, laissé comprendre clairement à l'État d'Israël et aux autorités israéliennes, tout en soulignant les liens très étroits qui existent entre l'Italie et Israël. Du côté du gouvernement israélien, il y a eu des attitudes, il y a eu des décisions, il y a eu des initiatives sur lesquelles, du côté italien, officiellement, on a montré préoccupation et certaines réserves.
Monsieur Ricardo, c'est ça. La décision serait justifiée selon certains observateurs. Et là, j'interroge évidemment votre expérience. Je n'oublie pas que vous êtes diplomate, ambassadeur, que vous avez une longue expérience dans le domaine diplomatique, mais aussi militaire, puisque vous étiez au sein de l'OTAN. Nous y reviendrons tout à l'heure. La décision serait justifiée par la situation actuelle au Moyen-Orient, notamment à Gaza et au Liban. La suspension vise, dit-on, à marquer une distance diplomatique vis-à-vis de ce qui est qualifié d'Israël dans un contexte de tension régionale. Est-ce qu'il vous semble que les choses doivent être présentées ainsi? Je rajoute que des sources italiennes indiquent que le maintien de l'accord aurait été politiquement impossible. Le pensez-vous?
En toute franchise, j'ai l'impression que à ce stade où la situation est arrivée dans la région, il était difficile face aussi à certaines pressions que certaines forces politiques avaient à plusieurs reprises fait sur le gouvernement de ne pas prendre une mesure qui puisse paraître aux oreilles des Israéliens comme une mesure de critique sur tout ce qui se passe maintenant au Moyen-Orient.
Pensez-vous que le maintien de l'accord aurait été, pour l'Italie, politiquement impossible, comme cela est avancé par certaines sources italiennes?
Cet accord n'est pas un véritable accord de défense et accord militaire. C'est un accord d'échanges de collaboration et de technologie, mais l'apparat militaire, l'appareil militaire israélien ne dépend pas de cet accord avec l'Italie, croyez-moi.
Ce serait une mesure, on va dire, sans grande conséquence.
Disons que c'est une mesure que sur le plan de notre opinion publique a eu un certain effet. Alors c'est sûrement cela que le gouvernement recherchait, et en même temps vis-à-vis d'Israël.
Comment réagissez-vous, Monsieur Ricardo Cessa, au fait que les forces de maintien de la paix de l'ONU soient aujourd'hui prises pour cible au Liban?
C'est une atteinte très grave à la signification de la présence des forces onusiennes au Liban. Ayant travaillé à cette force, je trouve que tout ce qui se passe contre les forces ONU, c'est une offense aux principes de coopération internationale et du multilatéralisme. Et c'est la raison pour laquelle, du côté italien, deux épisodes, pas très graves, mais quand même, qui avaient une signification politique, ont été condamnés de notre part avec les autorités israéliennes.
Comment réagissez-vous à la situation qui prévaut aujourd'hui en Moyen-Orient? C'est une région du monde que vous connaissez particulièrement bien. Quelle lecture faites-vous des tensions actuelles? Quelles seraient leurs conséquences également, Monsieur Ricardo Cessa?
Écoutez, cette région que vous connaissez bien est une des régions où les tensions sont les plus violentes. C'est une région où toute tentative de paix a été toujours très difficile à réaliser, et même dans les circonstances actuelles. Et à plus forte raison aujourd'hui, Étant un diplomate, étant un ambassadeur, je ne peux que souligner un aspect qui me préoccupe beaucoup, le manque d'un engagement sérieux de la diplomatie. Je ne dis pas qu'à travers la diplomatie, on aurait pu résoudre tous les problèmes, mais sûrement laisser travailler les professionnels aurait sûrement produit d'autres résultats.
Quelle place se tient aujourd'hui la diplomatie ? Pardonnez-moi, quelle place se tient encore la diplomatie aujourd'hui ? N'a-t-elle pas été écartée au profit des tambours battants de la guerre ?
Bien sûr, certainement. Mais écoutez, vous savez, il y a des situations où à la fin, même les diplomates les plus rusés ne peuvent pas empêcher les tambours de la guerre.
Oui.
Mais au moins, les diplomates professionnels savent comment approcher pendant une négociation, une partie plutôt que l'autre. Et mon impression, sur la base aussi de mon expérience personnelle, c'est que tout cela a manqué. Regardez ce qui se passe entre Israël et la Palestine, ce qui se passe à Gaza. Où est la solidarité arabe ? C'est une question que moi je me pose depuis des décennies. Regardez ce qui se passe à propos de l'Iran et des pays du Golfe. Tout cela a été complètement bouleversé. Chacun doit prendre sa part des responsabilités, croyez-moi. Et moi, j'ai parcouru toute la région et plusieurs fois, j'ai visité toutes les capitales, en commençant naturellement par la vôtre. Mais je connais la réalité est très compliquée. Non seulement par des responsabilités de grandes puissances qui ont chacune d'elles des intérêts particuliers, mais laissez-moi aussi ajouter une petite remarque personnelle.
Oui.
En soulignant toute l'amitié que j'ai envers tous les pays de la région. Tous les pays de la région ont aussi leurs responsabilités.
Comment ? Dans quelle mesure ?
Vous savez très bien. C'est une région, moi, si j'étais un habitant de la région, je n'aurais jamais admis que d'autres étrangers à ma région puissent imposer ou nous dire ce qu'il faut faire. Le même discours, je le fais pour l'Europe, croyez-moi. C'est exactement la même chose.
C'est bien clair, Monsieur Ricardo Cessa. Monsieur Ricardo Cessa, vous restez très actif dans le domaine de la diplomatie et des questions internationales, avec un accent particulier sur les questions onusiennes et multilatérales. Vous mettez en avant souvent la nécessité de refonder la gouvernance multilatérale plutôt que de compter uniquement sur la puissance militaire. La puissance militaire aujourd'hui s'impose de tout son poids. Qu'est-ce qu'il en est de l'ONU ? Qu'est-ce qu'il en est du multilatéralisme, ou en tout cas, qu'est-ce qu'il en reste ?
Il en reste très peu. Mais voyez, dans les analyses que nous développons ici au sein de la société dont j'ai l'honneur d'être le président,
oui,
qui s'appelle Société italienne pour l'organisation internationale,
oui,
nous faisons des études, nous développons des analyses, des recherches. Moi, personnellement, je travaille beaucoup sur la soi-disant crise du multilatéralisme. Alors, il est vrai, le multilatéralisme est entré en crise parce que la signification la plus profonde du multilatéralisme, c'est-à-dire croire dans le dialogue, dans le respect avec tous les autres, a été annulé, préférant le recours à la violence. Encore il y a quelque temps, on parlait de la force du droit international, naturellement.
Oui.
Aujourd'hui, malheureusement, ce concept a été remplacé par un autre concept, le droit de la force.
Absolument.
Voilà.
Monsieur Ricardo Cessa, vous êtes à cet effet très impliqué dans le monde des organisations internationales. Vous avez occupé, et là je parle sous votre contrôle si vous permettez, vous avez été le représentant permanent de l'Italie au sein de l'OTAN à Bruxelles, l'ambassadeur de votre pays à Téhéran et en Chine. Comment jugez-vous aujourd'hui l'équilibre des forces sur le plan international ? Je rajoute, et vous l'avez vous-même précisé, monsieur Cessa, vous avez noté que la République islamique d'Iran, vous dites le régime de la République islamique, est resté fondamentalement stable depuis les années 2000, malgré une société iranienne jeune et portée vers le changement.
Écoutez, là, ouais, c'est vrai, j'ai été ambassadeur à Téhéran, à Pékin, à l'OTAN, et avant d'aller à Téhéran, j'étais directeur général du Moyen-Orient et de la Méditerranée, ou encore ambassadeur à Belgrade.
C'est juste.
Sous les bombes de l'OTAN. Écoutez, la situation en Iran est très compliquée. Il faut vraiment la connaître. Pendant des années, il y a eu sûrement des manifestations qui étaient, je n'ai aucun problème à souligner, plus que nécessaire face à des répressions que la communauté internationale n'a jamais pu accepter et ne pourra jamais accepter. De cela à bâtir des initiatives militaires sous le prétexte du regime change, c'est vraiment tout ce qu'il y a contre tout principe juridique de coopération sur le plan international. Nous ne pouvons jamais admettre des interventions militaires seulement parce que un certain pays se conduit de façon que un État n'apprécie pas. C'est de la folie à l'état pur. Et surtout, c'est la confirmation que on ne connaît pas l'histoire. Chaque fois que quelqu'un a imaginé de lancer des campagnes sous l'excuse du regime change, cela n'a jamais marché. Moi, j'étais ambassadeur à Belgrade, comme je vous ai dit, sous le bombardement de l'OTAN en 1999. C'était contre Milosevic, mais Milosevic n'a pas été chassé à la suite des bombardements. Au contraire, tout le pays s'est rallié aux côtés de Milosevic. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je vous dis, connaissant l'Iran? Les Américains et les Israéliens, plutôt, je dirais, les Israéliens qui ont éliminé le premier rang, le deuxième, le troisième et peut-être même le quatrième rang du régime iranien. Vous savez quel est le résultat qu'ils ont obtenu aujourd'hui? Ce n'est plus les ayatollahs, les religieux qui commandent en Iran, mais ce sont les pasdaran.
Donc, pas d'interlocuteur politique, plus d'interlocuteur politique. C'est peut-être ça le but qui était recherché. Monsieur Ricardo Cessa, le pape s'est exprimé sur la politique de Donald Trump, notamment en raison de son discours belliqueux et de son approche très militarisée des conflits sur l'Iran, au Moyen-Orient et vis-à-vis d'autres questions. De son côté, le président Donald Trump a critiqué publiquement le pape sur les réseaux sociaux. Comment réagissez-vous à cet échange?
Écoutez, les déclarations de Trump, les toutes dernières, mais même celui de bien avant, n'ont pas besoin de commentaires. Elles s'expliquent toutes seules et naturellement ne vont pas dans le sens de ces principes, de ces valeurs dans lesquelles la communauté internationale a toujours cru. La réaction du pape, c'est la réaction normale de quelqu'un qui a à cœur le salut. Le pape parle d'une hauteur qui est tout à fait inconnue à Trump. Et la réaction du monde entier partout aux déclarations de Trump, qui se permet de critiquer le pape pour la première fois, cela est déjà arrivé dans l'histoire du monde au 11e siècle. Et surtout, l'attaque contre le pape est quelque chose qui ne se peut absolument pas expliquer. Et cela vaut par les représentants de toute religion. Aujourd'hui, nous parlons du pape. Moi, je me suis toujours battu pour le respect de toutes les religions qui sont toutes sur le même plan. Si Trump, demain, lance des accusations contre l'islam, je réagirai de la même façon.
Monsieur Ricardo Cessa, merci infiniment d'avoir été avec nous et d'avoir bien voulu nous accorder de votre temps. Merci infiniment, Monsieur Cessa, d'avoir répondu à mes questions. Ricardo Cessa est ambassadeur, diplomate, un politique italien. Il est actuellement président de la Société italienne pour l'Organisation internationale et il était avec nous à partir de Rome.
On ne peut pas faire d'ingérence dans les affaires intérieures du Liban. Je constate simplement que la communauté internationale est unanime pour demander le retrait des forces étrangères et surtout des services de sécurité.
Parler de relations entre le Liban et l'entité serait un raccourci trop simple compte tenu de leur complexité. Celles-ci sont tendues depuis 1948, sans reconnaissance mutuelle et marquées par des guerres multiples, celles de 1982 et de 2006.
Les États-Unis ont envoyé au Liban depuis un an un contingent de Marines qui fait partie de la force multinationale au même titre que les Français, les Italiens et les Anglais. Aujourd'hui, sur Terre, c'est-à-dire à Beyrouth, 1200 soldats américains participent directement ou indirectement au combat dans le cadre de cette force multinationale.
Les États-Unis soutiennent leur allié, dont la politique a été qualifiée par des diplomates de haut rang de poison dans la région. Ils le soutiennent militairement et financièrement depuis sa création via une aide annuelle et des exercices conjoints.
Israël est prêt à agir étape par étape. Nous procédons par petites étapes avec le gouvernement libanais. À chaque pas que fera le gouvernement libanais, nous encouragerons le gouvernement israélien à agir de la même manière.
En juin 1982, Israël envahit le Liban. Objectif, chasser l'OLP de Beyrouth, occupant le sud jusqu'en 1985 et soutenant des milices, dont celles de Saad Haddad et les Kataïb de Béchir Jemaïl.
L'offensive israélienne lancée depuis hier sur le sud Liban progresse rapidement. Aujourd'hui, les Israéliens se sont emparés du château de Beaufort, une place forte palestinienne, et occupent maintenant les villes de Tyr et de Nabatir.
En mai 1983, un accord est signé sous l'égide américaine, prévoyant un retrait israélien en échange de la sécurité frontalière. Il est abrogé en 1984 par le Liban. L'entité maintient une zone tampon jusqu'en 2000, faisant ainsi face à la résistance du Hezbollah renaissant.
أو بقيامي بعملية استباقية باتجاه لبنان أنك سترتكب أكبر حماقة في تاريخك ووجودك.
Le retrait unilatéral israélien en mai 2000 suit la ligne bleue de l'ONU, mais les litiges persistent. La guerre de 2006, et qui aura duré 34 jours, oppose l'entité au Hezbollah et aboutit à un cessez-le-feu. Les tensions frontalières toutefois perdurent. Dès la guerre de 1948, les États-Unis reconnaissent rapidement ce qui est qualifié d'Israël, fixant la ligne verte sans résoudre les litiges frontaliers. En 1958, il déploie des Marines au Liban pour contrer une résistance naissante. En 2006, les États-Unis bloquent deux résolutions de l'ONU de cesser le feu, fournissant munitions et soutien diplomatique à l'entité. La résolution 1701 de 2006, négociée par les États-Unis, a pour but d'imposer un désarmement, le désarmement du Hezbollah.
Ce qu'Israël dit aujourd'hui, c'est « Nous ne voulons pas occuper le Liban, nous sommes prêts à nous retirer du Liban. » Nous répondrons à ces attentes de retrait avec notre plan, dès que nous verrons quel est le plan concret pour désarmer le Hezbollah.
Entre 2025 et 2026, Washington agit sur différents fronts pour un désarmement, celui du Hezbollah, via une aide conditionnée au Liban de 14 milliards de dollars, tout en armant l'entité massivement. Jouant sur les cases obscures de son grand échiquier, les négociations de Washington d'avril 2026 sous Marco Rubio visent un accord bilatéral excluant l'Iran. Depuis fin 2024, les États-Unis conditionnent leur aide au Liban un calendrier de désarmement par phase, lié à un retrait de l'entité partielle du sud du Liban. Ce plan, approuvé par le gouvernement libanais en août 2025, sous Joseph Aoun, coordonné avec la France et l'Arabie Saoudite, suscite des tensions internes et des accusations de chantage. Malgré les visites d'émissaires comme Morgan Ortagus et des menaces de sanctions, le Hezbollah refuse l'option de son désarmement. Les armes du mouvement face à un ennemi aux ambitions expansionnistes affichées demeurent la seule garantie de la poursuite de la résistance. La seule, l'unique garantie de l'existence du pays du cèdre. Et c'est dans ce contexte que des militants surgissent et reviennent au devant de la scène. Soha Bechara symbolise la résistance libanaise. Elle a été arrêtée par l'armée d'occupation sioniste et placée en détention pendant 10 années dans la tristement célèbre prison de Khiem. Madame Soha Bechara, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes arrêtée au Liban au moment où vous apprêtiez à accomplir votre opération.
C'était le 7 novembre en 1988. J'ai pu entrer suite à des liens que j'ai pu tisser avec la femme de l'armée supplétive israélienne. Et j'ai pu entrer chez eux. Et à un moment donné, en discutant avec sa femme, j'ai sorti un revolver, comme c'était planifié, hein, et j'ai tiré 2 balles. Les 2 balles, il y a une balle qui a touché le cœur et l'autre balle vers l'épaule. 2 balles, une balle c'était un message adressé à tous les Libanais d'économiser toutes leurs énergies et leurs armes contre l'occupation israélienne. Que leurs batailles à l'intérieur du Liban soient des batailles politiques. Et la 2e balle, c'était un message, un salut à tous les enfants de la Palestine, aux enfants de l'Intifada. J'étais arrêtée sur le champ, torturée, transférée en Israël, puis retransférée dans le camp de Khiem, où je suis restée pendant 10 ans, bien sûr sans condamnation, sans aucun contact avec le monde extérieur. Ils ont arrêté en même temps à peu près 60 personnes, y compris ma mère, mon oncle, des cousins, des cousines, mais aussi des gens que je leur ai dit à un moment donné ou à un autre, bonjour, au revoir. C'était une épreuve. J'aurais pu être exécutée. Le hasard a fait que ça n'a pas été fait, mais il y en a beaucoup d'autres qui ont été exterminés sous la torture et dans les prisons d'une manière sommaire.
Je précise que l'opération que vous avez menée était contre le général de l'armée supplétive, celui qui dirigeait l'armée supplétive, Antoine Lahad. Madame Soha Bechara, votre parcours fait de vous une figure emblématique de la résistance anti-israélienne. Vous passez 10 ans en prison, de 1988 à 1998. 10 ans dans un centre de détention et de torture de Khiem.
L'armée sioniste, elle est là pour faire taire toute voix qui se lève contre cette occupation israélienne. C'est une armée supplétive qui était enroulée, entraînée, payée par cette occupation israélienne. Ça, c'est un. La 2e chose, c'est que cette résistance, elle était menée pour libérer le pays et en face, il y avait une occupation qui mène une politique coloniale, une politique d'occupation, une politique qui vraiment essaye de faire taire toute personne qui se lève et qui essaye de s'opposer à cette politique perpétrée par l'occupation israélienne. Le camp de Khiem, c'était pas une prison, les parents savaient qui était arrêté, qui n'était pas arrêté, ou qui avait des condamnations, ou on avait le droit à un avocat, comme c'est le cas dans les pays, disons, civilisés, qui respectent en tout cas le 4e convention de Genève. Le camp de Khiem, c'était un non-lieu. C'était un lieu où les parents ne savaient pas si leurs enfants étaient vivants ou n'étaient pas vivants, s'ils étaient arrêtés ou ils n'étaient pas arrêtés. C'était un non-lieu que cette occupation israélienne l'a perpétré. On voit maintenant ce qui se passe en Palestine avec les prisons où on arrête les Palestiniens et on ne sait pas combien de temps, pourquoi. On peut les appeler des lieux d'arrestation administrative, mais ça n'empêche qu'il n'y a aucune organisation internationale qui peut intervenir dans ces lieux comme la prison de Timan. Khiem, je ne veux pas comparer les traitements inhumains, mais avec tout ce qui se passe en pratique actuellement dans cette prison israélienne, on peut dire que même pas au Moyen-Âge, il y a eu un recours à ces pratiques inhumaines systématiques contre les détenus.
زنازين كثير صعبة والتحقيق أصعب. لما كنت أكون يعني بغرفة التحقيق أتمنى أني أطلع على الزنزانة وتصير أكثر مكان عفن ووسخ بالحياة أنت بتصير تتمنى تروح عليه عشان ترتاح فيه.
خلال التحقيق معي اللي استمر مدة 45 يوم تم استخدام أساليب مختلفة، منها ضغط جسدي للضغط النفسي للضغط الاجتماعي. كان التحقيق المتواصل من 8 ساعات في اليوم ل 20 ساعة،
فكانوا يسمعوني أصوات شباب وهم بتحققوا معهم تحقيق عسكري، يعني أصوات صراخهم والضرب. في مرات أنه يوصل لمرحلة أنه تحرش بشكل واضح، لما مثلا كان في محقق كان يقعد أنا أكون على الكرسي قاعدة ومكلبشة لورا، إيدي لورا ورجلي مكلبشين بالكرسي، يجي يقعد يفتح رجلي مباشرة، يعني الطاولة كثير قريبة مني، يفتح رجلي وبلش يتغزل في. أول ما يوصلوا مثلا على السجن بعطوهم مسكنات كثير ومؤدئات، بعدين بصير إنه خلاص يقطعوا الأمصر، يحكوا إنه مثلا هذا الدواء مش متوفر، فالبنات بعد ما تعودوا على هذا الدواء بيقطعوه عليهم وما بيعالجوهم.
من كل هذا العذاب إحنا بالآخر عن رد بنطلع أقوى.
Madame Soha Béchara, vous avez été donc emprisonnée pendant 10 années dans ce centre de détention de Riem, un centre supervisé par Israël sans jamais être jugée. Vous avez été torturée sans relâche. Vous serez libérée après 10 ans d'emprisonnement, dont 6 en isolement total. Vous expliquiez dans l'un de vos entretiens que ce qui vous poussait dans votre engagement, c'était la lutte des Palestiniens qui aurait motivé ou poussé votre engagement, Madame Soha Béchara.
Ce qui a poussé mon engagement, c'est la peur de devenir un deuxième Palestinien éparpillé dans les quatre coins du monde. Parce que la Déclaration des droits humains et la 4e Convention de Genève et tout ce que cet Occident prétend, malheureusement, s'arrête au moment où tu portes un passeport qui n'est pas les leurs. Donc, être dépossédé de ton identité, dépossédé de ton pays, effectivement, ça a généré chez moi, en tout cas, une peur qui m'a poussé de s'engager dans la résistance contre cette occupation israélienne.
Voyez-vous aujourd'hui cette peur, celle que vous aviez vécue à l'époque, à travers des témoignages des Palestiniens qui sont arrêtés par cette armée d'occupation, qui sont emprisonnés sans jugement, sans risque de représailles pour ceux qui opèrent ces arrestations, Madame Soha Béchara?
La politique d'impunité absolue dont Israël se réjouit depuis 1948, la question de la détention dans les prisons israéliennes, c'est pas une question qui est légère, la question de la détention des prisonniers palestiniens. C'est une question qui devrait être à l'échelle universelle, défendue à l'échelle universelle. C'est pas un millier, c'est pas des dizaines de milliers, c'est plus que 800 000 détenus palestiniens ont connu la prison d'une manière directe, directe. Donc, combien de prisonniers, combien de Palestiniens, sans parler hein, de Gaza, cette prison à ciel ouvert. Et encore, je ne sais pas si je peux appeler à ciel ouvert, puisque même le ciel ne nous appartient pas. Ça appartient à tous les avions de chasse israéliennes, américaines, occidentaux, tout ce qu'on veut. Toute la machine de tuerie et de guerre, elle est là pour étouffer quelqu'un qui est déjà en prison. Donc cette politique de prison et cette politique systématique qui était menée par Israël depuis 1948, c'est ce que nous a emmené à cette situation actuelle où on est.
Madame Soha Béchara, je le disais en début de cet entretien, vous avez été torturée sans relâche et en isolement pendant 6 ans dans le centre de détention de Riyab. C'est un centre auquel n'avaient pas accès les organisations humanitaires telles que la Croix-Rouge par exemple, comme cela est le cas aujourd'hui. Est-ce qu'il s'agit de scénarios qui se répètent? Comment le vivez-vous? Comment le voyez-vous?
Ça réveille pas seulement l'histoire de cette résistance qu'on a menée à raison, contre tout un projet colonial. Et ça me rappelle vraiment l'Algérie. On est sur une chaîne algérienne. L'Algérie, c'était un combat pas de 10 ans ni 20 ans. C'est un combat qui a coûté cher. C'est le pays de 1 million de martyrs. C'est le pays qui a connu la torture dans les prisons par le colonialisme français. Je pense que ce qu'on vit actuellement, ce que les Palestiniens vivent actuellement, ça nous fait revivre tout ce que a vécu l'Algérie face au colonialisme. Il n'y a qu'une seule solution. Une seule solution à tout ce qu'on vit, c'est la fin de l'occupation israélienne. Vous savez, les Palestiniens, ils ont mené toutes sortes de combats. Toutes sortes de combats. Avant d'arriver à la résistance armée, on a mené l'intifada des pierres. L'occupant, c'est à lui de choisir le moyen par lequel il va finir son occupation. Mais malheureusement, jamais un tyran apprend de l'histoire.
Comment jugez-vous la résistance libanaise contre l'occupation aujourd'hui, Madame Sohabeshara?
C'est sûr, il y a beaucoup de divisions sur cette histoire. Est-ce que on aurait dû être solidaire? Est-ce que les Libanais auraient dû se lever contre la barbarie et contre le génocide perpétré par l'occupation israélienne en Palestine? À mon avis, c'est le minimum. C'est le minimum de dire non à la barbarie. Et on devrait apprendre à nos enfants et au monde entier de se lever et de refuser. C'est le minimum. Se taire signifie être complice. Deuxième chose, on veut ou on veut pas, le Liban fait partie du projet du sionisme et si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Donc la politique israélienne qui était menée à Gaza, par la suite en Cisjordanie, allait venir au Liban.
Madame Sohabeshara, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, madame. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
هذا العدو الذي يهدد ويعربل نقول له لا تهديداتك ولا عربدتك ولا غطرستك نفعتك ولن تنفعك قول واحد اخرجوا من أرضنا اغربوا عن وجوهنا اخرجوا من قدسنا من أقصانا لا نريد أن نراكم فوق هذه الأرض هذه الأرض لنا والقدس لنا والكل لنا أنتم طارئون على هذه الأرض الطاهرة المباركة ولا مكان ولا مقام لكم ونقول لكل الدول بما فيه الأشقاء العرب بدهم يعرفوا أنه هذا الكيان الذي لا يستطيع أن يحمي نفسه أمام هؤلاء المقاتلين ما بيقدر يوفر لكم أمن ولا حماية وكل التطبيع والاعتراف بهذا الكيان وبكل الاتفاقيات اللي تم توقيعها معاه لا يمكن أن تحسم هذا الصراع الصراع يتم حسمه في أرض الميدان.
Certains retirent leur soutien, d'autres l'appuient encore fortement. En France, la loi Yadan désigne une proposition de loi déposée en novembre 2025 par la députée Caroline Yadan. Avec nous en ligne, monsieur Tom Martin, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes militant antisioniste. Vous avez, ou vous êtes en train également de militer contre cette loi, dite loi Yadan. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet, monsieur Tom Martin?
Cette loi, elle devait être présentée il y a plusieurs semaines et finalement, elle va être présentée le 16 et le 17 avril à l'Assemblée nationale en France.
Donc à partir d'aujourd'hui.
Oui, et donc face à ça, il y a un vaste mouvement de mobilisation pour dénoncer cette loi qui est en réalité une loi qui vise à criminaliser l'antisionisme et toute expression de contestation de la légitimité de l'entité sioniste. Notamment, il y a une pétition qui a été signée par plus de 700 000 personnes sur le site de l'Assemblée nationale, mais en réalité, ce qu'on a vu, c'est que mercredi 15 avril, la commission des lois a rejeté de manière unilatérale cette pétition et a annoncé le fait que le texte de loi serait bien discuté et voté à l'Assemblée nationale. Ce volte-face vis-à-vis de cette pétition souligne que le centre de gravité d'une mobilisation ne doit pas se concentrer sur les questions parlementaires, mais doit se concentrer sur les mobilisations collectives comme on les a connues il y a plusieurs mois, notamment dans les campus universitaires.
Donc il y a un véritable bras de force au sein même de l'Assemblée nationale française, il y a un mouvement qui tente d'imposer cette loi.
Oui, il y a d'un côté le lobby pro-israélien et ses relais, notamment de droite et d'extrême droite, qui essayent d'imposer leur narratif autour de la question du dit nouvel antisémitisme. En réalité, leurs intentions, c'est de criminaliser toute expression antisioniste et contre les intérêts d'Israël et ses alliés. Mais de l'autre, on voit qu'il y a aussi au sein de l'Assemblée nationale tout un courant, notamment au sein de la gauche, mais pas seulement, qui considère que cette réforme est en réalité une attaque extrêmement grave contre la liberté d'expression. Et ce qui est intéressant de souligner, c'est que la mobilisation très très large en France pour dénoncer cette loi a fait aussi bouger tout un tas de parlementaires qui d'abord se positionnaient en faveur et finalement ont annoncé leur retrait du soutien au texte. C'est le cas notamment du Parti Socialiste, c'est le cas de plusieurs formations de centre-droit, etc. Donc ça montre qu'en définitive, même sur ces questions-là, ce qui est déterminant, c'est notre capacité à se mobiliser et à contester le récit du lobby pro-israélien et de ses alliés.
Quelles sont les chances de voir votre mobilisation aboutir aujourd'hui, Monsieur Tom Martin ?
Ce qui est clair, c'est que cette loi a de fortes chances d'être votée à l'Assemblée nationale. Mais tant que ça ne soit pas le cas, il y a un enjeu à se mobiliser parce qu'on voit que s'ils arrivent à avoir une majorité, elle va être extrêmement fragile. Et par ailleurs, ce que moi je pense, c'est que même si cette loi est votée, il faudra après contester sa légitimité, y compris dans les tribunaux français. Parce que moi je pense que même si l'antisionisme deviendra une revendication jugée illégale en France, elle n'en sera pas moins légitime. Et donc, il faudra contester et affirmer la légitimité de notre combat, y compris dans les tribunaux. Ce qui est important de se rappeler, c'est qu'au début du boycott d'Israël en France, il y a eu toute une vague de criminalisation, beaucoup de procès politiques. Et grâce à la mobilisation, y compris dans les tribunaux, les autorités françaises ont été obligées de reculer et de reconnaître la légitimité du boycott d'Israël. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on prenne ce même chemin et il ne faut pas qu'on se fasse intimider par les dispositifs législatifs qui veulent en définitive nous faire taire.
Monsieur Tom Martin, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
Merci à vous.
Tom Martin est militant anti-sioniste.
هذا العدو الذي يهدد ويعربد نقول له لا تهديداتك ولا عربدتك ولا غطرستك نفعتك ولن تنفعك قول واحد اخرجوا من ارضنا اغربوا عن وجوهنا اخرجوا من قدسنا من اقصانا لا نريد ان نراكم فوق هذه الارض هذه الارض لنا والقدس لنا والكل لنا انتم طارئون على هذه الارض الطاهره المباركه ولا مكان ولا مقام لكم ونقول لكل الدول بما فيه الأشقاء العرب بدهم يعرفوا أنه هذا الكيان الذي لا يستطيع أن يحمي نفسه أمام هؤلاء المقاتلين ما بيقدر يوفر لكم أمن ولا حماية وكل التطبيع والاعتراف بهذا الكيان وبكل الاتفاقيات اللي تم توقيعها معاه لا يمكن أن تحسم هذا الصراع الصراع يتم حسمه في أرض الميدان
On participait à ce programme Souha Bichara, militante libanaise. Tom Martin, militant anti-sioniste. Riccardo Cessa, président de la Société italienne pour l'Organisation internationale. L'histoire en marche a été réalisée par Jalil Akhdar, coordonnée par Sami Haheli. Mariam Abdou vous a accompagné au micro. J'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi prochain à partir de 17h. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Inch'Allah.